Je fais pas d'intro hein, sur le podcast. Hein. C'est bon, là, ça enregistre, c'est parti.
C'est pas comme Julia Foyce. J'avais enregistré son émission sur Inter, elle fait un texte incroyable.
Ah ouais, c'est fou.
Eh ben, moi, je n'ai pas de texte.
Okay, ben, pas de soucis, je m'adapte.
Elle fait un truc, c'est génial. Et toi? Rien. Très bien. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 3e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois GC. Bonne écoute.
Il a oublié qui c'était, c'est ça? Je viens de le sucer dans les toilettes, il a déjà oublié. Bon, ça fait plaisir, hein? Coucou! Je suis trop content d'être là. J'espère que vous aussi? Oui, trop bien, on va grave s'amuser. Et vous savez, le stand-up, c'est de l'amour, hein? Plus vous allez me donner d'amour, plus je vais vous en rendre. C'est donnant-donnant. C'est un 69. Voilà, sauf que là, malheureusement, c'est que sur des vannes qu'on va s'étouffer. Et c'est stressant de faire Montreux, quand même.
Je sais pas s'ils vont le mettre sur la vidéo YouTube, parce que tu rentres avec cette vanne, plus vous me donnez de l'amour, plus je vais vous en donner, c'est comme un 69, je la fais moins bien que toi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que hier t'as joué dans le gala d'Alexandre Kominek, c'est ta première fois au festival.
C'est ma toute première fois,
Kominek, vous entendez bien d'ailleurs,
on est très amis, je dis ça parce que ça peut paraître bizarre. Mais ce gros fils d'Ahmar, en fait, il a...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A oublié mon nom?
Il était en train de faire son personnage sur scène et il se rend compte qu'il sait plus qui il doit annoncer sur scène. Du coup, il fait un petit pas de danse.
Il va
jusqu'en coulisses pour te regarder. Et du coup, il est mal à l'aise. T'as dû le regarder avec un regard.
Je l'ai insulté, en fait.
Il se souvient plus de mon nom alors que je l'ai sucé dans les toilettes. Je sais plus ce que c'est exactement.
Non, j'ai dit, il vient d'oublier mon nom là, c'est ça. Hein, alors qu'il y a 2 minutes, je suis en train de le sucer dans les toilettes. Mais au final, il m'a fait un super cadeau.
Bah oui.
Parce que du coup, j'ai pu faire une impro. Mais tu sais quoi, jusqu'à arriver au micro où je dis ce truc, je dis, je le fais pas. Parce que moi-même, je suis dans mon propre stress de bien débuter. Tu vois, et je me dis, putain, imagine. C'est ta phrase, personne rigole. Waouh, c'est dur. Et que toi, t'es là, putain, pourquoi je dis ça? C'était même pas prévu et tout. Et heureusement, ça a donné la première applause. Et ça a tout de suite donné le truc. Et je me suis dit, putain, mais ça, merci Alex.
Ça te présente, en fait.
Ouais.
Parce que ça vient tout de suite casser un truc de, ah, tiens, est-ce qu'il est homosexuel?
Ouais, de ouf.
Bon, voilà, au moins, tout est acté, tout est
de ouf. Donc, très bien. Peut-être qu'on va le refaire ce soir. Je sais pas, je vais voir avec lui.
C'est stressant de faire Montreux, quand même. Alors, le président du festival arrête pas de me dire, non, mais attends. Détends-toi, hein, laisse-toi t'imprégner de l'énergie suisse. Enfin, il est plutôt là, détends-toi, t'es stressé ou bien... Pardon, je sais qu'on n'est plus censé faire les accents en 2023. Mais là, bon, je me suis dit qu'imiter un homme blanc suisse, il allait pas m'arriver grand-chose. Allez. À part peut-être un contrôle fiscal, si j'ai vraiment été vilaine. Bon. En vrai, moi, j'ai écouté son conseil. Hein. J'ai laissé Montreux rentrer en moi. Voilà. Fallait juste que chacun attende son tour. Et qu'il reste un peu de place pour Kominek. Ah, je suis trop content.
Oui, en fait, j'ai écrit toute une intro pour Montreux. parce que je voulais faire un passage inédit. Donc, j'ai écrit toute une intro sur la Suisse, sur le fait que c'est stressant de jouer à Montreux et qu'il y a beaucoup de vieux en Suisse, mais que moi, ça me dérange pas parce que mon premier mec était beaucoup plus âgé que moi.
Ça te permet de rentrer dans un truc, dans une vanne que tu veux faire, quoi.
En fait, ça me permet de... Moi, ça me permet de capter le public, de leur parler vraiment. Et tu vois, par exemple, si ce passage, je suis amené à le refaire dans d'autres circonstances, je changerais l'intro pour l'adapter et pour retomber sur mes pas. Pour moi, il faut que j'arrive sur mes pas, en gros, quand je parle de mon ex, mon premier mec. Donc, tout ce qui est avant, je l'ai écrit pour Montreux. C'est Montreux, en gros.
En vrai, quand j'ai su que j'allais jouer en Suisse, j'étais là. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas mon ex dans la salle. Hein. Pas parce qu'il est suisse, hein, mais parce qu'il est vieux. Ah ouais, désolé, il y a plein de vieux dans ce pays. Je suis arrivé à la gare tout à l'heure, c'est plus un pays que vous avez, hein, c'est un EHPAD à ciel ouvert. Ah bah, ils ont juste foutu un lac au milieu, ils se sont dit, bon, ce sera plus joli quand ils sucreront les fraises. Après, en France aussi, on a plein de vieux. Hein. Et je sais pas si vous êtes déjà allé à Cannes, en dehors des dates du festival. Je peux vous dire, il y en a plus beaucoup qui peuvent les monter, les marches. Hein. Après, moi, j'ai rien contre les vieux. J'adore, d'ailleurs. Mon premier mec, il était beaucoup plus âgé que moi. Oui, et d'ailleurs, il m'a donné mon premier cachet d'ecstasy. Oui, il était allemand. Mais ça m'a rien fait. Le cachet d'ecstasy, hein, pas qu'il soit allemand. Bah non. Non, allemand, j'aimais bien. J'aimais bien, il mettait des petites claques autoritaires sur les fesses. J'étais là, ya, ya, Hartung, Hartung, Hartung. Il y avait un côté nazi hyper excitant.
Non, mais j'aimerais bien que tu me parles de ça, parce qu'effectivement, t'as ce stress de vannes du début qui sont faites pour la Suisse, mais en même temps, c'est pas ton matériel, donc t'en es un petit peu moins sûr. Et effectivement, là, au moment où t'arrives à ton ex, tu souffles pour deux choses. À la fois parce que tu sais que la première partie, elle est finie, et que c'est bien passé.
Et que ça s'est bien passé, ouais.
Et que tu sais où tu vas et que tu vas les tuer, quoi.
Ouais. Bah, en fait, t'arrives là où quand t'es le plus fort, dans les meilleures conditions. Donc tu dis, bon, t'emballe pas, gère, parce que t'as tous les bons ingrédients, faut maintenant que la sauce, elle prenne. Et quand tu vois que ça prend, eh ben là, j'ai kiffé. Et je m'attendais pas à kiffer, parce que moi, je fais deux galas, je fais celui de demain aussi, je me disais, je vais plus kiffer demain, j'en aurais déjà fait un et tout. Et là, j'ai tellement kiffé, j'ai pris mon temps, j'ai fait des trucs que je fais pas d'habitude.
C'est-à-dire
dans les intonations ou dans les pauses.
C'est vrai?
J'ai vraiment kiffé, quoi. Quand j'ai plus joué, tu vois, avec eux... à un moment ils ont applaudi la bite tordue, j'étais bon, ils y applaudissaient la bite tordue tant qu'on y est, et genre vrai,
oui,
tu vois,
je voulais t'en parler après.
D'habitude je dis pas ça, tu vois. Mais je sais pas, ils étaient, j'aurais dit d'ailleurs à un moment, j'aurais dit ah je vous aime trop, et
ouais, je pensais que tu faisais que c'était un peu une mimique de scène pour
non
toi. Ah non, c'est vraiment, non, c'est profond, non, du cœur,
ouais.
Ça vient du cœur.
Ah mais parce que on a fait trois warm-up avant dans des petites salles,
stand-up, des galas pour
mais
tester,
un enfer. C'est-à-dire que
tester les vannes en Suisse avant de les jouer sur la
très très dur, un public très froid, moi qui était pas du tout à l'aise, qui était pas ouvert, et du coup je me suis dit waouh, je vais au casse-pipe à Montreux, j'étais là, non mais
t'as bien dormi là,
c'était un enfer. et en fait bah je suis trop content, mais merci Alex, parce que c'est lui qui a créé ce line-up, c'est lui qui a créé cette énergie, ce public de fou, quoi, qui avait envie qu'on parle de cul en plus. Donc moi, je suis ravi.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que le gars-là, il s'appelle Aisance Intense. Lui arrive dans un peignoir où il joue ce personnage qu'il maîtrise à la perfection, séducteur, un peu border. Et effectivement, lui, il parle de cul, donc le public avait un peu cette envie que ça parle de cul, et toi, tu parles.
Et moi, je parle de cul.
Ouais.
Donc, je suis très content. Je suis très, très content. Et c'est 7 minutes... c'est quasiment les seules minutes où je parle de cul dans mon spectacle. Donc, c'est 7 minutes sur 1h10. Mais c'est vrai qu'on a pris cet extrait pour le gala d'Alex, parce qu'on s'est dit, bah, je pense que les gens qui vont être dans la salle, c'est pas des gens qui ont peur d'être choqués. Et c'est des gens où, au contraire, on va leur écrire un texte et on va leur donner ce qu'ils veulent, quoi.
Eh ben, parlons de cul. Alors.
Et donc, pardon, l'ecstasy, il m'a donné, ça m'a rien fait. J'étais là, bah, c'est ça de l'exta? File-moi de l'héro. Avec le recul, je pense qu'il m'avait donné un Doliprane. Ah bah de toute façon, il avait quoi, 10 ans de plus que moi et une assurance dingue. Il m'aurait proposé de l'Imodium, j'aurais dit oui. Et ça a été ma première fois dans le grenier de ma tante. Et alors accroupi dans un grenier devant un Allemand, a priori l'histoire partait pas pour être la plus joyeuse. Mais bon, c'est ma première fois. Je l'accepte pour ce qu'elle est. Un instant très court. Non, en vrai, je me souviens pas de tout, mis à part que ça n'a pas été une réussite et que j'aurais dû prendre l'Imodium. Bah c'est à ce moment-là que moi j'ai réalisé que l'homosexualité pouvait pas être un choix, hein? C'est pas possible. Personne choisirait ça délibérément. Pardon, c'est basique. Tu proposes à quelqu'un, s'il veut faire trempette dans un bain toujours propre, ou dans un bain dont il connaîtra la propreté de l'eau qu'une fois dedans. A priori, le choix est vite fait. Hein.
Tout est vrai.
Tout est vrai.
Ouais. C'était pour The Rocken de Belfort. Ma tante, elle habite à Belfort. Et c'était ma première fois, j'avais 18 ans. Je venais d'avoir mon bac et j'ai ramené un mec en catimini chez ma tante. Et en fait, je dormais dans le grenier, c'était un grenier aménagé. Et donc, je le ramène dans le grenier. Ma première fois, c'est dans le grenier de ma tante avec un Allemand. C'est ce que je dis.
Mais ça s'est bien passé quand même.
Non, ça s'est... c'est la découverte de la sexualité. Et ce que je dis sur scène, et moi j'avais envie d'arriver sur scène pour expliquer ce que c'est que la sexualité gay, parce que je trouve qu'on la fantasme beaucoup, je le dis dans le spectacle, où on dit, waouh, les homos c'est des bêtes de sexe, ça doit être trop bien, mais eux vraiment, ils se couchent avec tout le monde, c'est génial et tout. Et en fait, j'ai envie de dire, en fait, non, c'est pas génial parce que, enfin, dans la sodomie, il y a un truc, faut y aller, quoi. La preuve, c'est que les mecs hétéros qui ont pas besoin de ça, très peu le font.
Ouais, tu vois, une super vanne là-dessus.
Ouais. Et puis même les meufs, ouais. elles ont une chatte, elles l'utilisent, tu vois, la sodomie, c'est vraiment genre, allez, une fois par an, quand on a trop bu. Et nous, c'est notre seule, alors il y a une autre sexualité aussi sans forcément se pénétrer, tu vois, mais nous, en tout cas, si on veut une pénétration qui n'est pas buccale, on est obligé de passer par là. Et j'ai envie de dire, faut arrêter de fantasmer ce truc, parce que c'est pas incroyable et c'est dur, quoi, et ça fait mal, en fait.
C'est un super axe, moi, je trouve. C'est hyper intéressant pour tous les gens qui...
Mais ouais, on me dit...
Ouais. Ne savent ouais, pas, ouais, ouais. Tu vois, il y a une vraie... Ouais, il y a un vrai sujet. Est-ce que tu crois... C'est quoi? Il y a un tabou qui s'est placé au début, ou alors c'était pour accepter...
Je sais pas, parce que dans la communauté gay, franchement, nous, c'est un vrai truc où on en parle souvent, de se dire, oh là là... Genre, par exemple, imaginons, on est en couple avec un mec avec qui on vit pas, une relation à distance, il vient passer un moment à Paris. Putain, c'est tout un truc, hein, de la sexualité, quoi. T'es obligé de faire des lavements, le mec, t'es obligé de garder un truc un peu romantique, il vient vivre chez toi, on a des petits apparts à Paris, sauf que si tu fais pas ce lavement, tu risques que ce soit pas très propre quand tu le fais. C'est vraiment toute une logistique dans la sexualité gay qu'on pense pas. Et nous, des fois, entre personnes queer, on est en mode, putain, mais ce serait trop bien, genre, si on n'était pas obligé de se pénétrer à chaque fois, si on avait d'autres façons de faire et qu'on avait, moi je dis tout le temps, j'adorais avoir une chatte, tu vois, genre, mais que ce soit normal, pas genre que les hommes, ouais. On ait deux trous, voilà, tu utilises celui que tu veux. Mais non, c'est pas le cas, malheureusement.
Ouais, je trouve ça très cool d'aborder ce sujet là. Mais d'ailleurs, la vanne, je l'ai plus exactement en tête, parce que
sur
je note
créneau.
Un peu en même temps. Ouais, exactement, ouais. C'est là où j'allais.
Ouais, c'est,
je la trouve vraiment cool,
cette analogie,
A priori, le choix est vite fait, hein. C'est pas ça ce que j'imaginais, moi, plus jeune, quand j'entendais l'expression faire l'amour. L'amour. Waouh! C'est beau. C'est doux. Ça sent la rose. Puis quand on grandit un peu, on s'imagine quoi? Hein, on s'imagine l'acte d'amour. Un acte entier, passionné, où on s'abandonne complètement à l'autre. On s'imagine pas les quatre fers en l'air en train de faire un créneau, hein. Stop. Doucement. Vas-y. Non, ça passe pas. Ça me fait marrer, moi aussi.
Cette analogie, je me suis vraiment dit quand j'étais en train de faire l'amour, et que vraiment, au début, t'es là, attends, vas-y, donc faut préparer doucement, tout ça. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment un truc de manutention, de circulation routière. Attends, stop, doucement, vas-y, c'est bon, non, ça passe pas.
Quand j'étais petit, j'entendais faire l'amour, je me suis dit, waouh, c'est beau.
Bah oui, l'amour, quand tu grandis, c'est un truc fou. Puis quand t'es un peu plus âgé, à l'ado, l'essence, quand tu comprends ce que c'est que faire l'amour, l'acte en lui-même, t'as hâte, tu le fantasmes, il y a un truc de... C'est tellement génial, les gens en parlent, c'est génial. Et moi, dans mon expérience personnelle, ma première fois, j'étais là, ah ok, ça va être ça toute ma vie, en fait. Genre, et oui, il y a une partie de ça, oui.
Ouais, mais ça doit être effectivement encore plus... peut-être surprenant quand tu fais partie de la communauté, enfin quand tu es gay, parce que tu dois, tu as peut-être moins de, disons que j'ai l'impression que la première fois chez les femmes où on sait qu'il y a cette histoire d'hymen, d'hymen qui casse, enfin de sexe, il y a cette histoire de douleur, de machin et tout, c'est quand même assez connu. C'est-à-dire que les gens en parlent quand même assez. Tout le monde est un peu au courant de cette histoire. Même un gamin de 14 ans,
bien sûr.
Première fois qu'il va il va se dire, il faut que je fasse attention, machin. Enfin, j'espère. En tout cas, choisissez cela. Et du coup, je me dis, effectivement, il y a moins ça. Ou alors, vous en parlez un peu plus. Mais bon,
pour en parler,
il faut d'abord se découvrir, faire son coming out, rencontrer des gens.
Moi, à 18 ans, j'avais fait mon coming out il y a peut-être un mois de ça, quand je fais ma première fois. On m'en a jamais parlé, en fait, de la sexualité gay. On est dans les années, on est en 2010, si je fais mon calcul, on est en 2010-2011. Moi, j'ai très peu d'amis homo à l'époque. J'ai fait mon coming out récemment. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et donc, en fait, on est face à nous-mêmes et face à la personne qui est censée t'accompagner là-dedans. Et tu te dis, aïe. Non, mais en fait, tu te dis, waouh, bah, j'espère que ça va aller mieux ensuite. Et puis, quand après, tu côtoies plein de gens, toutes mes potes meufs ou mes potes mecs hétéros, qui sont en mode, ah non, mais toi, ça doit y aller. Hein. Et toi, qui ont vraiment ce truc de fantasme. Et toi, t'es là, ah non, mais alors, je t'explique pas du tout. Et je le développe beaucoup plus dans le spectacle, ce truc du rapport à la sexualité et de... que les homosexuels, on est un peu vu à juste titre parfois, hein, parce qu'on est plus libéré hein, aussi, il faut le dire. Et on est vu qu'avec des sexualités vachement débridées, mais des fois, franchement, non. Hein, parfois, il y a passé 30 ans, moi je dis dans le spectacle, on est comme tout le monde. Hein,
ouais.
Tu vois.
Ouais, je trouve ça vraiment bien d'ailleurs ce que tu racontes après, parce que je ne sais pas si tu enchaînes tout de suite avec Charlotte, je reprends mes notes.
Ouais, après, je passe sur la sexualité et l'injonction couple. Ça me fait marrer, moi aussi. Ça me fait marrer quand, genre, ma pote Charlotte me dit « Ah ouais? Tu le fais qu'une seule fois, toi? Non, mais moi, je peux le faire 5 fois de suite. » Ma grande. Un jour, pas comme les autres, il va toquer à la mauvaise porte, on verra combien de fois tu retournes. Et puis, pardon, hein, mais en plus, c'est quoi, là? Cette espèce de pression sociale sur le nombre de rapports journaliers hein, ou hebdomadaires qu'on est censé avoir avec son partenaire. Non, parce que je crois qu'on l'a tous, hein, cette pote-là, qui étale son bonheur sexuel devant ses amis. Oh bah, nous, c'est tous les jours avec Mathieu. Ouais, non, là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Non. Non, parce que j'ai entendu dire que Clotilde, elle le faisait qu'une fois par semaine. Oh, c'est chaud, non? Et nous, à côté. Une fois par semaine, c'est beaucoup déjà. Non mais franchement, en plus on n'ose jamais rien lui dire à cette meuf-là, on n'ose jamais rien lui répondre. Mais moi je rêverais de pouvoir lui dire. Si, si, Charlotte, je t'assure, il y a un problème quand même. Oui, c'est que pour aller bien et te rassurer, en fait t'es obligé de glorifier ta sexualité. Mais qui te dit que Clotilde ou moi qui baisons peut-être pas tous les jours avec notre mec, quand on le fait, on s'éclate pas plus que toi. Hein? J'ai pas fini. Tu crois que c'est le nombre de rapports journaliers qui qualifie ton désir ou ton orgasme? Eh ben, je suis pas sûr que tu désires ton mec plus que nous, et quand bien même, est-ce que tu le désires mieux? En plus, Mathieu te trompe. Voilà. Non, pleure pas, non, tu m'as cherché.
Je trouve ça drôle que tu utilises une nana pour parler de ça. Que toi, ça te choque en tant que personne, mais que tu ramènes ça à la sexualité simple d'un couple et pas à l'hétérosexualité.
En fait, je veux partir de mon homosexualité pour ensuite en faire un truc universel. Et c'est ce que je fais dans le spectacle aussi, quand je parle de mon géniteur, de plein de trucs. Je parle d'un truc perso et ensuite avec la volonté surtout de vouloir parler aux gens. Et du coup, c'est pour ça que dans mon passage sur la sexualité, je parle de mon expérience, mais aussi j'ai plein de potes meufs. Qui sont toujours à me dire « Ah non, mais moi, hier, avec Mathieu, c'était trop bien, on l'a fait 5 fois et tout. » Et moi, ma réaction honnête, c'est quoi? C'est ça, 5 fois? Mais comment tu fais? Et genre, elles sont là. « Ah ouais, mais parce que toi, tu le fais combien de fois? » Genre, « Ah non, mais moi, c'est minimum 5 fois. Hein. » Et genre, j'ai envie de les claquer. Et je l'ai dit à ma pote. Je lui ai dit « Mais enfin meuf, si tu te faisais enculer 5 fois de suite, tu serais pas en train de faire ta belle devant moi, en fait. » Et elle était là « ah ouais, j'avoue. Et du coup, je l'ai utilisé pour faire un passage, tu vois.
Et c'est cool aussi parce que, effectivement, c'est un vrai problème. Enfin, c'est pas un vrai problème en soi, mais ça l'est psychologiquement pour les gens.
En fait, il y a
de se poser la question du nombre, de se poser la question de la quantité.
Ouais, il y a une vraie pression sociale pour que ton couple aille bien. T'as l'impression qu'il faut avoir une sexualité très régulière. Sinon, ça va pas. Et j'avais envie aussi d'aborder ce truc-là, de dire, on peut baiser peut-être qu'une fois par mois parce qu'on en aura envie qu'une fois par mois et que ce soit génial. Et plutôt que de se forcer parce que ta copine, t'as l'impression qu'elle le fait toutes les semaines et que toi aussi, tu devrais le faire toutes les semaines, plutôt que de te forcer, je dis, comme être un agneau sacrificiel sur le lit. Et tout le monde le ressent que tu te forces en plus, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a, encore une fois, je le développe plus dans le spectacle, mais il y a un truc où on doit réussir à s'affranchir de ce truc de devoir s'offrir comme ça pour pas qu'on nous trompe ou pour pas qu'on nous quitte.
Ouais.
Non, vraiment, il faut arrêter avec ce calendrier. Moi, je me suis quand même surpris plusieurs fois à calculer depuis combien de jours j'avais pas couché avec mon mec. Et mais pas parce que j'étais en manque, hein, ou rance, non, mais parce qu'en fait, je suis conditionné à devoir une fréquence de baise régulière et socialement acceptable. Charlotte me conditionne, sans le savoir, hein, à devenir un esclave sexuel qui pourra être répudié s'il s'offre pas à intervalles réguliers. C'est ça, hein, le sujet. Oui, on considère que si on couche pas assez avec notre partenaire, il nous quittera ou nous trompera. Donc nous, on est là, hein, comme si on comptait nos jours de cheveux sales. Lundi, non, on n'a rien fait, lundi... Mardi, non. J'ai sucé mardi. Oui, putain, oui, j'ai sucé mardi. Ouais, je compte à partir de mardi. Hein. Mardi, oui. Mercredi, non. Jeudi, non. Vendredi, oui. Mais il a pas joué, putain, il est chiant aussi. Samedi, non. Hier, non. Oh, ça va faire une semaine. À la douche. Non, mais c'est mon mec, moi, qui a dû me rassurer là-dessus. À force de me voir nu, grelottant, le regard vide, allongé sur le lit tel un agneau sacrificiel, il m'a dit « Bon, j'ai l'impression que tu te forces. »« Ah, enchanté, Sherlock hein. !» Il est con. Et il a ajouté « Enfin, mais tu sais, moi, j'ai pas besoin d'être en toi pour kiffer. Je veux dire, on peut faire plein d'autres trucs. Hein. » Du coup, on a trié le placard épices.
Mais c'est vrai qu'on le fait, hein. Je sais pas toi, mais quand t'es en couple, oui. Tu sais, des fois, tu te poses cette question. Attends, c'était quand la dernière fois déjà? Lundi, non, non. Et des fois, t'es là, oh, merde, putain, ça fait une semaine, allez, go. Alors que t'as pas envie en soi. Tu vois, t'es là, ça te va très bien. Et peut-être que parfois, t'auras envie tous les jours parce que t'es dans une disposition d'esprit, c'est les vacances, je sais pas, ça va bien. Tu vois, et d'un coup, ça va être tous les jours. Et puis parfois, une fois par mois et c'est OK. En fait, j'ai envie de dire, c'est OK. Ça veut pas dire que t'aimes moins ta meuf ou ton mec. Ça veut pas dire que t'as envie de le tromper ou quoi. C'est juste OK.
Mais quand tu le dis, ça a l'air tellement normal. Et c'est pour ça que je pense après, quand tu fais... Mon mec m'a dit, j'ai l'impression que tu te forces. Merci, Sherlock.
Ah ouais. Oui, je me force, ouais.
Bah oui, parce qu'effectivement, quand tu l'expliques comme ça, tu fais, ouais, en fait.
Bah oui. Vois. Mais on le ressent en plus, c'est ça que je trouve. Et puis, parfois, la personne en face, toi, tu te forces, c'est ce que j'essaye de dire dans le passage, et elle en a conscience que tu te forces, donc franchement, c'est pas cool. Et elle-même, elle est en mode, attends, on n'est pas obligé, toi, de se pénétrer, quoi.
Parce que ranger le placard à épices.
Voilà,
du coup, c'est ça.
Je désamorce en disant ça, ouais. Ça se passe dans le spectacle. Dans le spectacle, je dis, quand il me dit ça, je dis, alors je sais que la plupart des hétéros pensent qu'ils sont seuls en fait dans ce bateau qu'est la sexualité dans un couple. Et du coup après je fais les parallèles sur la sexualité homo, la sexualité hétéro pour dire qu'on est dans le même bateau en fait. Et du coup voilà.
Non mais moi je trouve ça bien. Il y a aussi effectivement cet axe de parler à potentiellement toi quand t'avais 18 ans, c'est-à-dire potentiellement à une communauté homosexuelle, quoi, pas forcément en face d'eux des gens qui vont leur donner les réponses. Pour toi, quand tu montes sur scène, c'est aussi un moyen de parler
Ouais. Moi, quand je monte sur scène, j'ai cette envie que les jeunes gays qui regarderont peut-être cette vidéo Montreux aient trouvé peut-être un représentant qui leur parle et aussi qu'ils puissent se dire « Ah putain, mais... » C'est cool qu'on entende ce discours-là aussi de la part de la communauté, de dire c'est ok, genre soyons dans nos rapports sexuels les plus normalisés possibles. Et j'avais vraiment envie de dire ça aux gens.
Ouais, parce que souvent dans l'humour, l'humour gay a été très amené avec ce personnage effectivement de soif, de sexualité constante et tout. Donc là, je trouve ça cool que ça part sur une autre démarche. Et au final, vachement plus stand-up, parce que vachement plus fédérateur, en fait.
Ouais, ouais. Et puis, parfois aussi, je dis qu'on est... Des fois, il y a une dualité. Hein. Genre, on peut avoir une sexualité folle. Et en même temps, en fait, moi, je mets vraiment une différence entre la sexualité et la sodomie. Je mets vraiment une différence dans la sexualité où je dis, tu peux franchement avoir une sexualité de ouf et juste la sodomie, tu dis... j'aime pas ça, genre en tout cas c'est compliqué, c'est vraiment de trucs comme en fait le sexe pénétratif, tu vois, j'en parle un peu plus dans le spectacle aussi, mais il y a ce truc, ce rapport quand je fais dans les rapports hétéros où encore une fois on a pas besoin, on peut faire plein d'autres trucs et c'est ok et c'est très bien et on kiffe, tu vois.
J'aime bien, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, après, tu vas sur un truc qui est moins sur la sexualité, si je vais être honnête avec toi.
Ouais.
Alors, je vous aime trop. Alors, il y a autre chose également que j'aimerais trier dans ma vie, c'est tous les gens qui utilisent cette expression « je vais être honnête avec toi ». Oh putain. On est d'accord ou pas ? Je l'entends à toutes les sauces, cette phrase. En plus, elle précède toujours une vérité dont on se fout royalement. Hein, je sais pas, on a quand même rarement envie d'entendre « Je vais être honnête avec toi, la quichoton, je suis pas fan. » Mais non. Dis-moi en plus. Hein. On s'en fout, en fait. On s'en fout. À part si c'est vraiment pour nous dire quelque chose de très important, hein, de très intéressant. Par exemple, je vais être honnête avec toi, je tripote des enfants. Oui, là oui, bien sûr. Hein. Mais si c'est pour, par exemple, entendre un homme politique sur TF1 qui commence par « Écoutez, je vais être très honnête avec vous. » Personne n'écoute la suite de cette phrase. Personne se dit « Ah tiens, il va être honnête, Macron. » En plus, genre, il est trop sympa, il nous a prévenus et tout. Bah non.
Moi j'aime bien le côté je vais être honnête avec toi, je tripote des enfants.
Mais...
on va à la
ça,
police.
Ça, tu sais de qui c'est une vanne? Laura Felpin.
C'est vrai?
Ouais. Franchement, c'est elle qui me l'a donné.
Vous avez rencontré.
Ouais, on se faisait un ping-pong. Ouais, ouais, c'est une de mes super potes. On se faisait un ping-pong avant Montreux et je lui dis mon passage et elle dit putain, ce serait bien que là, tu dises un truc abusé. J'ai ah ouais grave et donc on prend, elle dit imagine genre tu tripotes des petites filles et c'est putain trop bien et après tu dis non mais attends surtout sois honnête au commissariat du 10e. Elle me dit ça et du coup je dis vas-y putain trop bien et donc je l'ai noté et tout et je l'ai, ça c'est le dernier ajout qu'on a fait.
Je trouve bien, d'accord.
Ah ben je lui dirai.
Mais on embrasse Laura.
Ouais.
Et après, du coup, ouais, alors t'as ce truc politique. Tu donnes ton avis un peu quand même sur les hommes politiques, parce
oui.
que tu dis quand même que t'en as.
Ça, pas c'est vraiment un clin d'œil au spectacle, parce que j'ai un gros passage dans mon spectacle sur la politique, parce que moi, je viens d'une famille d'un père président du Parti communiste en Côte d'Or, qui est communiste, très engagé en politique, et donc j'ai tout un passage sur lui et son rapport à la politique. Et du coup, ça me faisait plaisir dans le 7 minutes. Donc à la fois, on a une vision sur la sexualité, à la fois, on a une vision sur un peu ce que je pense des petites phrases. De choses plus légères et à la fois un peu politique, ouais, sur Macron.
Cool, et du coup, tu le rajoutes à ce moment-là ici ou alors même dans ton spectacle, il y a ce moment politique à ce moment-là
Même dans le spectacle, il y a ce moment-là.
Ouais, ok. C'est pas un truc que tu as rajouté en plus.
Non.
Et après, du coup, bah, il y a la bite tordue, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est très drôle parce que déjà, on s'y attend pas, c'est surprenant, c'est cul, donc de toute façon, le public qui était là un peu pour rire de ça. Et effectivement, ils applaudissent la bite tordue. Moi, j'ai bien aimé ton move sur la bite tordue, mais tu m'as dit que justement, un peu plus tôt dans le podcast, tu m'as dit qu'effectivement, c'était pas du tout une phrase d'accroche. Parce que moi, je me suis dit. Elle est cool, cette punch, tu vois.
Ah ouais, vous pouvez applaudir la bite tordue. Ah ouais, non, j'étais là. Ah, ok.
Non, c'est genre, ah, vous applaudissez la bite tordue. Bon, bah, d'accord.
Ah ouais, j'ai dit comme ça. Je me souviens plus.
C'est ça que moi, j'avais bien aimé.
Bah non. Hein? Non. Pourtant, cette phrase, elle peut avoir un certain charme, hein, utilisée avec parcimonie et entre personnes proches. Par exemple, je vais être honnête avec toi, François, tu me dégoûtes, je te quitte. Et t'as la bite tordue, François. Oula, je vois des regards interloqués au premier rang. Vous avez jamais croisé de bite tordue de votre vie? Non? Que Dieu vous en préserve. Pardon, mais... Allez, on applaudit la bite tordue, ça me fait plaisir. Non, mais c'est horrible, ce truc. Ouais, en forme de... Tout le monde voit, en forme de crochet, là, comme ça. Oh, vous l'avez en Suisse aussi, certainement, hein. Non, mais je suis désolé, on y suspend un cadre à la limite. Ah, on part à la pêche avec, pourquoi pas. Ah, mais moi, je suis pas une carpe. Non, c'est horrible. Ça visite des endroits que c'est pas du tout censé visiter. Hein, puis ça revient rarement seul. Trop content. Et ce soir, j'ai l'impression que je vous ai bien laissé rentrer en moi, en tout cas. Ça m'a fait très plaisir. Elle devait être bien droite, j'imagine. Passez de très belles soirées, moi, c'était GC.
Et ouais, en fait, normalement, je dis, franchement, là, on est dans la salle, je dis, on est une centaine ce soir. Il y a forcément un mec qui a la bite tordue et qui est en train de rire jaune, c'est sûr. Et avoir écrit tout ce texte inclusif pour en perdre un sur la bite tordue, ça me fout en l'air. Et donc, tu vois, je dis ça parce qu'il y a forcément des gens qui ont la bite tordue dans la salle. Et là, on était 1800, je crois, 1600, je sais plus. Et du coup, j'ai pas réussi à le caser, je savais pas. J'étais là, 1600 personnes ce soir, et il y a forcément des mecs qui ont la bite tordue, c'est sûr, qui sont en train de rire jaune et d'applaudir en mode. Et je l'ai pas placé.
Et après, du coup, tu fais un crescendo, quoi, où t'enchaînes les vannes, tu laisses pas autant le gens autant de respirer. Ouais. Donc, t'as le truc de la carpe, le truc qui, ça va visiter des endroits, machin.
En fait, et j'ai même supprimé des trucs parce qu'on s'est dit, non, là, c'est un peu, moi, je voulais le garder, mais les gens qui travaillent m'ont dit.
Qu'est-ce que tu voulais garder?
Alors, normalement, je dis, déjà, je dis, tu sais, quand je dis à la douche, je remonte là, plus avant, dans le passage.
Ouais.
Quand je dis, ça va faire une semaine qu'on n'a pas couché, allez, à la douche.
Ouais.
Normalement, je dis, putain, j'aurais pas dû reprendre du chili, moi. Normalement, je dis ça. On l'a supprimé parce que c'était un peu hard, mais moi j'adore. Moi, franchement, si ça tenait qu'à moi, peut-être je vais la faire ce soir. Et ensuite, on a aussi supprimé parce que ça faisait trop pipi caca selon Émilie. C'était la bite tordue. Je dis on part à la pêche avec pourquoi pas, hein, mais moi je suis pas une carpe, puis pas souvent aller à la pêche, celui qui pense qu'on attrape une carpe par le cul. Normalement, je dis ça. On l'a supprimé aussi. À tout moment, je dormais ce soir.
Je trouve ça drôle.
Moi aussi.
Ok. Bah, tu feras comme tu le sens. De toute façon, fait un bon passage.
Mais grave.
Et que t'en fais un deuxième ce soir, voilà, tu peux t'éclater encore plus. Par exemple, Émilie, peut-être.
Ouais, je vais lui dire. Mais ouais, et après, je clôture.
Et tu clôtures avec, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes bien rentré en moi.
Oui, parce que j'ouvre en disant j'ai laissé mon trou rentrer en moi, que c'était le conseil du président du festival. Et donc, je dis, voilà, je vous ai bien laissé rentrer en moi. C'était cool, elle devait être bien droite.
Donc, c'est cool parce que tu assumes une homosexualité cash, direct, tu
parles
de plein de
choses. Sans jamais en dire, voilà, alors moi, je suis gay. Moi, j'avais pas du tout envie de commencer par là, de dire, bon, alors, voilà, je vais vous dire quelque chose. J'aime les garçons. Tu vois, je voulais vraiment... en mode, ouais. Et au début, tu sais, t'arrives et limite, cette vanne, elle pourrait être hétéro. Genre... Imagine, après, j'ai dit, je suis hétéro.
Oui.
Bah, c'est pas grave, j'aurais sucé comme une aigle. Et même Alex, son personnage, il aime les meufs. Tu sens qu'il aime les nanas aussi, que c'est juste un gros charreau, en fait, de la casse. Et je trouve que c'est trop bien. Ce truc de même pas en faire un sujet. Tu vois,
c'est genre, exactement ce que j'allais dire, c'est là où j'allais.
Alex, je trouve que c'est ça que j'adore. J'adore à la fois dans son spectacle que Alexandre j'ai vu deux fois. Ouais, pardon.
Non, mais t'as raison.
Alexandre Kominek. Ouais, je suis devenu ce connard qui donne des surnoms aux gens connus.
Vous êtes amis, sinon.
Et donc, Alexandre Kominek, il a un spectacle incroyable qui s'appelle Bâtard Sensible. Et il parle de l'homosexualité dans son spectacle, Alex. Et en fait, il dit qu'à un moment donné, il est allé dans une boîte de nuit gay. Et que ça a été un des meilleurs moments de sa vie, qu'il avait jamais vu autant de beaux mecs, qu'il a kiffé. Et il faudra aller voir le spectacle pour avoir plus de détails. Mais j'avais rarement vu dans un spectacle d'un mec hétéro avec des gros sabots, qui a un humour vraiment
tu l'attends pas
à ce qu'il soit fin sur l'homosexualité. Ben putain, je trouve ça vachement bien qu'un mec comme lui, ça, qui s'adresse à son public, qui est franchement c'est pas un public homo. Hein, et ben que son public, il entende que l'homosexualité, c'est trop cool. Parce que c'est ça le discours d'Alex dans son spectacle.
Quand il fait son personnage de Carlos, il monte sur scène, il fait un personnage qui est le concentré du cul, quoi.
Ouais,
tu vois. Et en fait, c'est bien parce qu'en fait, il est tellement cul que pour lui, tout est cul.
Mais oui.
Et genre, tout est bien dans le cul. Tu vois, coucher avec un garçon, c'est bien. Les poils, c'est bien. Et en fait, du coup, ça en devient un discours qui est très moderne.
Mais hyper moderne. En fait, c'est un beauf moderne, son... et c'est sa force. et c'est pour ça que je l'aime autant, c'est que vraiment, il arrive à être inclusif. Alors, les gens vont se retourner en écoutant ce podcast quand je dis ça, mais moi, je le crois profondément. Enfin,
moi, je suis d'accord avec toi, parce qu'en le connaissant dans la vie, il est comme ça dans la vie. Mais arrête de parler de lui, pardon.
Mais
à peu près ce même, je trouve, c'est pour ça peut-être aussi, je sais pas si tu le sens comme ça, mais que ça marche bien pour toi. C'est que peut-être que t'amènes dans une modernité dans ce truc où on n'a pas l'impression en tant qu'hétérosexuel de passer à côté. On n'a pas l'impression non plus de voir un cliché. On a vraiment l'impression de parler de la même chose que toi.
Moi, j'avais vraiment une envie en écrivant ce spectacle. C'était de m'adresser à tout le monde. Et de pas pointer du doigt et de pas vraiment vilipender j'utilise des mots, il n'y a pas les hétéros, parce que je le dis encore une fois dans le spectacle, on a besoin de vous, en fait. Moi, je dis, on a besoin des hétéros dans notre combat, pour être accepté. Ça passera par tout le monde, ça va pas passer que par notre communauté, même si évidemment c'est la communauté LGBT qui doit mener les combats pour sa propre communauté, mais elle doit avoir les hétéros en alliés, et on ne doit pas les rejeter, on doit les inclure, parce que c'est comme ça qu'on passera par plus de représentation, par plus d'acceptation. Et je le dis dans le spectacle, on a besoin d'être main dans la main. Alors, je le désamorce avec plein de vannes. Et je dis que moi, ma part là-dedans, c'est de coucher avec le plus d'hétéros possible pour les ramener dans le... j'ai eu beaucoup d'hétéros dans ma salle qui sortent, et j'adore, parce que souvent je reçois des messages sur Insta ou quand ils m'attendent et qui me disent, putain, on s'est senti grave inclus, parce que parfois on va avoir des spectacles de personnes LGBT et c'est en mode, alors attendez, les hétéros, est-ce que genre on peut déjà applaudir tous les personnes gays ce soir et les hétéros on les applaudit pas? Tu vois, il y a des trucs un peu comme ça. Et moi, c'est vraiment l'inverse que j'ai envie de faire. J'ai envie de dire, venez, on s'applaudit tous. Venez, on essaye tous de mener notre petite barque et de poser notre pierre pour qu'il y ait plus de respect pour tout le monde. Mais le respect doit aussi passer par le respect des hétéros. Et évidemment que le respect doit aussi passer des hétéros vers les homos. Mais c'est notre travail en tant qu'humoriste de les ramener, d'essayer d'être le plus intelligent possible pour les manipuler, en fait. Tu vois, et pour qu'à la fin, ils sortent de la salle en disant, putain, les gays, c'est trop cool, en fait. Mais c'est trop bien, les gays. Tu vois, c'est ça qu'il faut, qu'ils sortent de la salle en se disant ça, plutôt qu'en se disant, allez, j'ai encore vu un spectacle de PD, tu vois.
Mais je trouve ça que c'est pour ça que j'aime bien quand tu parles du rythme de la sexualité dans un couple, parce qu'en fait, ça rapproche à des problèmes qu'on a en commun. Mmh. Et voilà, donc ça, c'était le... J'ai d'autres questions pour toi. C'était... Ouais. T'as une couleur de ouf, genre t'es tout le temps en vermante, d'eau là.
Ouais, alors je sais pas comment on l'a défini, cette couleur.
J'ai lu que t'avais un mur vert chez toi, oui. Et que du coup on t'a pris en photo et oui. Que c'était la base de ta DA et tout. Mais quand même, tu t'es mis dans un mood où t'avais envie d'avoir une DA quand même, tu vois. C'était pas... parce que sinon t'aurais arrêté. Ouais.
Dès que j'ai pensé ce spectacle, à l'époque j'étais en couple avec le DA du projet, qui s'appelle Clément Dezelius, qui est un espèce de génie trop cool. Et aujourd'hui on n'est plus ensemble, mais on continue à bosser ensemble. Et en fait, c'est lui qui a eu cette idée, avec moi, mais c'est vraiment sous son impulsion, de créer une identité visuelle forte qui sera un atout après, à la fois où on pourrait s'éclater et à la fois où les gens pourraient... Maintenant, les gens, quand ils voient cette couleur, les gens qui me suivent, ils m'envoient parfois des photos d'une voiture, d'un truc. Et du coup, c'est con, mais ça veut dire que dans la journée, ils auront pensé à toi et tu pourras plus leur prendre leur thune quand ils achèteront une place.
Ouais, je suis pas sûr que ça te bloque, parce qu'en vrai, si t'as envie de faire un spectacle qui parle vraiment d'autre chose, tu vois, tu peux changer de couleur, en fait.
Ah, mais moi, j'ai pas...
Et du coup, ça marque...
Ça.
Aussi.
Chaque spectacle, il va y avoir une identité visuelle forte. Et là, c'est le vert. Et donc, on s'est dit... Au départ, c'est parti.
C'est marrant que tu choisisses le vert, parce que tu sais que c'est un peu... Ça porte malheur sur ça.
Je sais, mais tu sais que à la base, c'était vraiment parce qu'il y avait ce mur vert à la maison. J'ai pas pensé plus loin. Et on s'est dit, attends, ça sera bien si tu mets un costume vert sur fond vert. Et puis du coup, même dans la salle, on a tout designé, c'est tout vert. Tout là où je joue au Théâtre du Marais, on a fait un rideau vert velours, tous mes plots sont verts, mon micro il est un peu vintage argenté, mais ça reflète du coup le vert. C'est vraiment c'était important, et les gens m'en parlent, donc ça veut dire que ça marche.
Ouais.
C'est tout con, hein, mais une couleur, tu vois, Nordine il a pris le violet,
c'est ce que j'allais dire,
et Nordine Ganzo, et c'est cool, je trouve que ça crée tout de suite un univers.
Ouais, c'est bien. Mais alors, je me demandais, parce que t'as eu une carrière de mannequinat ou je sais pas.
Ouais, alors moi, j'ai commencé.
Si t'es pas lié, en arrivant... tu sais, un peu dans ce monde de la mode, de la salle.
Bah, il vient de la mode, Clément Dezilus. Et il a vraiment voulu, un peu, comme peut faire Fary, mettre une identité visuelle. Et je trouve que les gens, ils aiment. Dans le sens où, putain, tu te fous pas de leur gueule, en fait. T'essayes de l'affiche jusqu'à la proposition scénique, jusqu'au texte. J'ai essayé que les 20 balles que coûte le spectacle, ils se disent, ah ben, franchement, il s'est pas foutu de notre gueule. Et ça me fait plaisir, moi aussi, de proposer un truc complet, dans le sens où on a taffé, quoi.
Et il y a une, tu parles de ton spectacle, il y a un dernier point sur lequel je voulais, après je te libère parce que ça fait, je croque un peu. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais parler avec toi parce que c'est quelque chose que je, enfin, que je, connais un tout petit peu. J'ai pas eu de père géniteur comme toi, je maîtrise pas du tout le sujet. Mm-hmm. Par contre, la pluripaternité, je la connais. Mm-hmm. Et le fait d'appeler papa quelqu'un qui n'est pas forcément ton père génétique, je connais un peu ce truc-là. Et du coup, quand j'ai vu que tu parlais de ça sur scène et tout, je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant parce que normalement, c'est un exutoire plutôt de psychologue.
Ouais.
Et je voulais en parler avec toi, savoir si ça avait...
Bah ouais, moi, dans le spectacle, j'explique que j'ai une maman, un papa et un géniteur. Mon géniteur que je connais pas, c'est lui qui a mis la petite graine, parce que je suis le fruit d'une relation extra-conjugale entre ma mère et son amant. Et mon père m'a quand même reconnu et élevé, tout en sachant que j'étais pas son propre fils. Donc tout ça, je l'explique dans le spectacle, ce qui a amené à une famille qui n'est pas la famille traditionnelle comme on la pense, parce que bon, ils se sont séparés. Donc mon père m'a élevé séparé de ma mère. Il s'est tout de suite remis avec une belle-mère qui s'appelle Maryse. Et donc ces deux personnes m'ont élevé. Maryse et mon père, qui n'est pas mon géniteur, et ma mère également, une semaine sur deux. Et donc j'ai connu une espèce de famille qui n'est pas la famille traditionnelle. Et ce qui m'a donné envie d'écrire ça dans le spectacle, c'est quand j'ai vu des gens qui sortaient dans la rue et qui essayaient de nous expliquer ce qu'était la famille et que la famille, c'est un papa, une maman, un enfant. Et moi, ça m'a vraiment fait du mal parce que je me suis dit, bah non, en fait. Moi, je suis l'exemple et je pense qu'il y en a plein d'autres en France, beaucoup plus qu'on ne croit,
beaucoup plus qu'on pense,
qui n'ont pas cet exemple de la famille, un papa, une maman. Et j'avais envie de dire, bah regardez, on peut quand même vivre, exister, puis être équilibré. Et donc, c'est vraiment le fil rouge du spectacle. C'est la filiation. Le cul, tout ça, ça vient, mais.
Désolé de te poser cette question, parce qu'à mon avis, on a dû la poser, c'est relou. Mais, tu parles des gens qui disent un papa et une maman, et forcément, c'est des gens qui reconnaissent pas l'homosexualité, et peut-être qu'ils font un lien, de cause à effet.
Peut-être. Mais, j'ai plein d'exemples, des amis à mes parents qui sont deux femmes lesbiennes, qui ont eu un enfant par PMA, dans les années 2000. Donc, il a aujourd'hui genre 23 ans. Ça a été une des premières, d'ailleurs, une des premières décisions de justice qui a reconnu que ces deux femmes pouvaient être les deux mamans. Et elles se sont battues. Ça a été incroyable. Et elles ont réussi à être reconnues les deux mamans dans les années 2002-2003. Donc, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, il a 23 ans. Il s'appelle Antoine. Et il est hétéro, en fait. Et il a été élevé par deux meufs qui sont des caricatures de lesbiennes en chaussures de marche H24 et qui sont des tantes pour moi. Et en fait, il est hétéro. Donc, c'est faux, ce truc que les homos créent des homos et les schémas qui ne sont pas la famille traditionnelle créent des homos. Pas du tout.
Bien sûr, c'est faux, mais ça fait du bien de le rappeler.
Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est l'exemple le plus criant que j'ai. Et franchement, dans ma famille, qui est une famille que j'ai rarement vue aussi ouverte sur le sujet, on est, je sais pas, peut-être 18, 20, 20 cousins. Je suis quasiment le seul gay. Hein. Donc vraiment, ça marche pas comme ça, quoi. Ça marche pas comme ça.
Et du coup, ta famille, elle t'a tout de suite parlé, il y a tout de suite eu cette ouverture,
oui.
Tout a été très dit.
Tout a été très dit,
c'est
tout
fort,
a été... Ouais, mais j'ai énormément de chance, hein. Ouais. Et j'ai vraiment conscience que c'est pas tout le monde qui est dans ce cas-là. Et moi, quand j'ai fait mon coming out, j'ai dit à Maryse, ma belle-mère, écoute, je suis gay. Elle m'a dit, je parle d'une nouvelle. Elle était au courant on jouait à la coiffeuse quand j'avais 6 ans.
Oui, mais bon, on aurait pu jouer à la coiffeuse. Sans
complètement. Forcément. Mais jouer à la coiffeuse, j'étais très impliqué. Je voulais ouvrir un salon de coiffure. Enfin, c'était, non, il y avait pas beaucoup de doutes.
Je trouve ça vraiment chouette. Bah, merci beaucoup. J'ai juste une petite dernière question pour toi et après je te libère.
Ouais, c'est le numéro de ma chambre?
Non.
D'accord, pardon.
je voulais te poser une question, savoir, j'aime bien finir les podcasts que je fais avec des passages d'un artiste qui n'est pas celui que j'interview, donc quelqu'un que tu choisirais toi, soit parce que tu l'aimes, soit parce que tu as envie de lui faire de la promo.
Et je te dis le nom.
Ouais,
Alexandre Cominet.
Alexandre Cominet.
Ouais. Et je dois citer le passage?
Bah, si t'as un passage en tête, je le prends, sinon moi je vais choisir moi-même.
Non, mais tu peux prendre pour le coup quand il fait Carlos.
Ouais, il joue un personnage qui s'appelle Carlos, qui aime les femmes. J'en dis pas plus. Ouais. Allez. Et les femmes, les hommes d'ailleurs, qui aiment.
Il aime tout.
Tout.
Il aime tout. Il aime le cul, hein, Carlos. Quelque une personne qui est extraordinaire.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Il y a des mamans ce soir dans la salle? Non, pourquoi j'adore les mamans? J'adore les mamans, parce que les mamans, tu vois, c'est des femmes qui ont envie de s'amuser, tu vois. Bah oui, elles ont des vies pas faciles à gérer, tu vois, entre le boulot, les gosses et leur connard d'ex-mari. Hein? Je peux te dire que quand j'arrive dans leur vie, je suis comme une potato au milieu des frites, quoi, tu vois. C'est Carlos, ça fait plaisir. Ah ouais, j'adore les mamans. En plus, des belles-là, ça fait de la peine. Il y en a, ça fait tellement longtemps, elles n'ont pas fait l'amour. Tu leur écartes les cuisses, il y a de la vapeur chaude qui sort. Comme une lave-vaisselle. Voilà. Ou un dragon qui éternue, tu sais pas ce que c'est, mais. Non, ça fait de la peine. En plus, moi, j'adore les mamans parce que c'est des femmes qui font pas des chichis, tu vois. Y a pas, les mamans, y a pas des chichis. C'est vrai, parce qu'elles ont pas le temps, elles ont du vécu, elles ont l'expérience. Donc tu vas chez elles, pam, tu viens, tu baisses, tu dégages. C'est genre coucher avec une maman, c'est comme el tiki-taka des Guardiola, tu vois. Ça va vite, c'est technique, c'est bien, ça. Non, mais en plus, ce que j'adore avec les mamans, c'est que, tu vois, après l'amour, dans les armoires, il y a toujours de quoi prendre le goûter. Ah, ça, c'est extraordinaire. Hein? Il y a toujours, tu vois, un petit chocoven, un Kinder Pigu. Oh, j'adore ça, putain. La dernière fois, il y en a une, j'ai connu, Valérie. Elle m'a fait découvrir la pipe à la pompote. Oh, c'est extraordinaire. La pipe à la pompote, extraordinaire. Ah ouais, non, la pipe à la pompote, c'est extraordinaire. En plus, le lendemain matin, tu as ce petit sentiment de culpabilité, tu vois. Non, parce que tu entends son gosse crier. Le gosse, il crie, maman, il n'y a plus de pompote. Et toi, t'es là, il n'y a plus de pompote, mon pote, hein. Je peux te dire que maman, elle a fait le plein de vitamines, hein, le plein de protéines. Carlos, tu peux l'appeler Nutri-Score A+. Allez, bon, bah, ça c'est bon, ça. Joder.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt. Donc profitez-en pour aller le voir en vrai. C'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, bah, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.